Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient, Wallis Glaise. Donald Trump au Moyen-Orient avec une première étape à Riyad en Arabie Saoudite. Le président américain et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman ont signé aujourd'hui ce qui a été présenté comme un partenariat économique stratégique entre les deux pays. La Maison-Blanche a évoqué de son côté un contrat pharaonique de 142 milliards de dollars. A noté également un investissement saoudien de 20 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle aux États-Unis, selon la Maison-Blanche. La malnutrition aiguë dans la bande de Gaza utilisée comme arme de guerre, cela à travers le blocus imposé par Israël au territoire palestinien. C'est une alerte de Médecins du Monde. L'ONG souligne qu'après 18 mois de guerre, la bande de Gaza a atteint des niveaux de malnutrition comparables à ceux observés dans les pays confrontés à des crises humanitaires s'étalant sur plusieurs décennies comme le Yémen ou encore le Nigeria. Dans le reste de l'actualité internationale, après la libération du soldat israélo-américain Aidan Alexander par le Hamas, le premier ministre israélien a annoncé l'envoi d'une délégation de négociateurs à Doha au Qatar pour discuter de la libération des autres otages détenus dans la bande de Gaza. La Syrie, les médias officiels syriens ont rapporté ce que le président Ahmed al-Shara ne participera pas au sommet arabe de Bagdad prévu en début de semaine prochaine. Le ministre des Affaires étrangères dirigera lui-même la délégation syrienne au sommet. La Syrie, toujours, qui salue les déclarations du président américain Donald Trump sur une possible levée des sanctions qui lui sont imposées, les qualifiant dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères de pas encourageant vers la fin des souffrances du peuple syrien. En Libye, des affrontements entre groupes armés dans la capitale libyenne Tripoli hier soir et dans la nuit qui ont fait au moins 6 morts. C'est ce qu'a annoncé hier le centre de médecine d'urgence après que le gouvernement de Tripoli a assuré avoir repris le contrôle de la situation. Ukraine, sujet de société, retraite, finances publiques. Emmanuel Macron, rendez-vous ce soir avec les Français dans une émission. Ce soir donc sur chez nos confrères de TF1, le chef de l'État répondra durant 2 heures aux questions de personnalités issues de la société civile, influenceurs, chefs d'entreprise ou encore leaders syndicaux. Justice, sa prise de parole au palais de justice de Paris était très attendue. Kim Kardashian présente pour témoigner devant la cour d'assises au procès de son spectaculaire braquage dans sa chambre d'hôtel où des malfrats sont jugés pour lui avoir dérobé 9 millions d'euros de bijoux. C'était en octobre 2016. Je vous pardonne, a exprimé Kim Kardashian cet après-midi ému après que le président a lu une lettre de l'un de ses braqueurs. Justice toujours, Gérard Depardieu, c'était le jugement aujourd'hui. Il a été déclaré coupable d'agression sexuelle sur 2 de ses victimes. Le comédien a été condamné à 18 mois de prison avec sursis assorti d'une peine complémentaire de privation de ses droits d'éligibilité de 2 ans et d'une inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Merci beaucoup d'avoir suivi ce flash d'infos. Place à présent, vous le savez, à votre magazine d'information. Au sommaire, ce cri d'alarme de Médecins du Monde qui dénonce l'utilisation de la faim à Gaza comme arme de guerre. Les précisions dans quelques secondes. Un sujet de société ô combien important, le débat sur la fin de vie qui fait son retour dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec l'examen de 2 propositions de loi sur les soins palliatifs et sur l'aide à mourir. Et puis culture également, direction Cannes tout à l'heure avec la cérémonie d'ouverture de ce festival de Cannes, l'occasion de revenir sur cette édition marquée par des tensions géopolitiques. Je vous le disais donc, c'est le premier sujet de ce magazine d'information. La guerre à Gaza, le blocus israélien provoque une malnutrition aiguë. C'est ce qu'alerte en tout cas Médecins du Monde.
Radio Orient, focus. La malnutrition égaye dans la bande de Gaza, utilisée comme une arme de guerre, cela à travers le blocus imposé par Israël au territoire palestinien, une alerte de Médecins du Monde. L'ONG souligne qu'après 18 mois de guerre, la bande de Gaza atteint des niveaux de malnutrition comparables à ceux observés dans les pays confrontés à des crises humanitaires s'étalant sur plusieurs décennies, comme le Yémen ou le Nigeria. François-Xavier de Calonne pour toutes les précisions.
Ce rapport est fondé sur les données de 6 centres de santé gérés par Médecins du Monde à Gaza. L'ONG met en lumière le lien entre la hausse des taux de malnutrition et la baisse des volumes d'aide dans l'enclave palestinienne. Nous ne sommes pas témoins d'une crise humanitaire, mais d'une crise d'humanité et de faillite morale avec l'utilisation de la faim comme arme de guerre, selon les mots de son président, Jean-François Corti. Le rapport de Médecins du Monde détaille l'effet domino de la diminution des réserves alimentaires, mais aussi de la destruction d'installations agricoles ou des systèmes d'assainissement sur la crise de la malnutrition. L'aide est censée entrer principalement par des points de passage situés entre la bande de Gaza et Israël. Seulement, voilà, celui de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, est inopérant depuis la prise de la ville par l'armée israélienne au printemps dernier. À cela s'ajoute le fait que les autorités israéliennes ont fermé les points de passage depuis le 2 mars, disant vouloir ainsi contraindre le Hamas à libérer les otages israéliens. Sur le terrain, les ONG dénoncent donc une situation dramatique. Le Programme alimentaire mondial a annoncé le 25 avril avoir épuisé tous ses stocks. Hier, un rapport, fruit du travail d'ONG, d'institutions et d'agences de l'ONU, a conclu que la bande de Gaza était confrontée à un risque critique de famine, avec 22% de la population bientôt dans une situation qualifiée de catastrophique.
François-Xavier de Calonne pour toutes ces précisions.
Tout autre sujet à présent. Un an après avoir été interrompu par la dissolution, un débat fait son retour dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
Actu France. Les parlementaires français débattent d'un sujet particulièrement sensible. Ils ont commencé hier à examiner deux propositions de loi visant à renforcer les soins palliatifs et à légaliser l'aide à mourir pour les adultes de plus de 18 ans atteints d'une maladie incurable ou en phase avancée voire terminale. Cela permettrait aux patients de recevoir ou d'administrer une substance létale eux-mêmes ou avec assistance médicale. Le député Renaissance Éric Botorel fait part de débats sereins. Il se réjouit de la présence de deux propositions de loi sur la fin de vie, on l'écoute.
Ça permet de ne pas mélanger les gens. D'un côté, les soins palliatifs qui existent dans notre pays de longue date et qui sont finalement décrits dans la façon d'accompagner une partie des gens sur leur fin de vie dans la loi Claeys-Leonetti. Et puis de l'autre côté, un droit nouveau, ce que l'Assemblée nationale s'apprête à proposer et d'abord par l'instruire par un débat. Un droit nouveau pour aller un peu plus loin que ce qui existe aujourd'hui dans l'état de notre droit.
Aller un peu plus loin, c'est-à-dire cela doit se traduire selon vous par quelles mesures concrètes ?
C'est de passer d'un dispositif qui est aujourd'hui se limite finalement à une situation profonde conformément à ce qui peut se pratiquer au terme de la vie pour soulager les douleurs en soins palliatifs à quelque chose qui on va qualifier de l'aide active à mourir, et qui peut avoir deux volets, celui qui est le geste que je commets moi-même ou celui qui est délégué à un tiers.
Des débats qui ont débuté hier, dans quel climat ?
Plutôt serein, à l'image de ce qui s'était produit lors de l'examen du premier texte de loi qui était un projet de loi, puisque là désormais ce projet de loi est repris sous forme de deux propositions de loi, avec une seule discussion générale, donc on voit bien qu'il y a une intimité de relations entre ces deux textes, même s'ils sont séparés, mais il y avait de la hauteur, du respect mutuel, chacun avec ses expériences, sa foi, ses croyances, ses valeurs. Bref, la diversité de la représentation nationale a pu s'écouter un peu hier soir, et c'est tant mieux, et ça augure de débats de qualité.
Quand le député LR, le médecin Philippe Juvin, se demande si l'État peut se mêler à la mort d'un tiers, y compris par la simple autorisation d'un dispositif, il dit que l'impossibilité de donner la mort est un principe absolu, c'est en tant que député, mais aussi que médecin qu'il parle. Comment vous accueillez ce propos ?
Ce que dit Philippe Juvin est tout à fait respectable. Il y a aussi, en miroir de cela, des personnes, des gens, des proches, des malades, qui explique que la situation de droit actuelle ne leur permet pas de partir dans la dignité et souhaiterait que notre cadre législatif soit rénové. De sorte que le sujet n'est pas de créer un droit qui deviendra une obligation pour tous. Encore une fois, et peut-être est-il utile de rappeler que ce qui sera créé, c'est un espace nouveau, une faculté nouvelle. Et évidemment, chacun sera libre d'y recourir ou pas. Il ne faudrait pas réduire ce débat à l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule façon de terminer sa vie demain, et c'est celle qu'on aura décidée, le droit et les débats de l'Assemblée nationale. Non, non. Ce qui est ici en question, c'est une opportunité supplémentaire, appelons-le comme ça, en tout cas une option supplémentaire par rapport au droit existant, et qui est encore une fois une forte demande d'une partie de la population. Fut-elle de 3%, de 5%, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je viens par là que le sujet n'est pas de savoir si seulement X% de la population souhaite recourir demain à l'aide active à mourir. Ceux qui voudraient pouvoir y avoir accès n'auront plus à traverser les frontières, enfin, qui n'existent pas d'ailleurs en Europe, mais n'auront plus à aller en Belgique ou en Suisse pour y accéder.
C'était Éric Botoret, le député Renaissance, au micro de François-Xavier de Calonne.
Et puis, un dossier important, forcément, le Festival de Cannes qui s'ouvre aujourd'hui.
Culture.
Le 78e Festival de Cannes s'ouvre ce mardi 13 mai dans un climat mondial tendu. 22 films sont en compétition pour la Palme d'Or qui sera remise le 23 mai. Cette édition se distingue par une sélection engagée marquée par des conflits contemporains, les luttes sociales et les récits de résistance individuelle. Parmi les films très attendus en compétition, signalons le nouveau opus de l'Iranien Saed Roustahe intitulé Mother and Child, de l'Américain Wes Anderson avec The Phoenician Shames et de l'Ukrainien Sergei Loznitsa, qui est nommé pour son film Deux procureurs. Avec 4 films sur 22 en compétition pour la Palme d'Or, le cinéma tricolore n'est pas en reste pour cette 78e édition du Festival de Cannes. C'est parce que notre modèle est efficace qu'il est attaqué, s'est félicité Rachida Dati le 7 mai dernier en référence aux menaces du président Trump de taxer les films importés et tournés à l'étranger. L'année dernière, 6 films français étaient nominés, dont le célèbre film L'amour ouf de Gilles Lelouch et Le Comte de Monte Cristo. Espérons un même succès cette année pour le cinéma français. Le jury de cette édition est présidé par Juliette Binoche, à ses côtés 8 membres venus du monde entier, dont Ali Berry, actrice et réalisatrice américaine, Paya Kapadia, cinéaste indienne, Leila Slimani, écrivaine franco-marocaine, et notamment Diedo Amadi, documentariste congolais. Ce jury électrique reflète la diversité du cinéma mondial et aura la tâche de départager les films en compétition pour la Palme d'Or.
Oui, guerre au Proche-Orient, des stars dénoncent également le silence sur Gaza dans une tribune concernant justement cette ouverture du Festival de Cannes.
Dans l'actualité.
La cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes a lieu ce mardi soir, mais les festivités ne peuvent se faire sans une pensée envers la population gazaoui. Plus de 300 personnalités du cinéma signent une tribune en Libération pour dénoncer les atrocités de la guerre. Les précisions avec Amani Difaoui.
Lors de la précédente édition du Festival de Cannes, on se souvient du geste subversif de Cate Blanchett avec sa robe noire, verte et blanche, se fendant au tapis rouge du Palais des Congrès, allégorie au drapeau palestinien. On se souvient aussi du pins porté par Leila Bakhti représentant une pastèque en forme de cœur aux couleurs du drapeau palestinien. Nous sommes à plus d'un an et demi de guerre et la grand-messe du cinéma ne peut se contenter cette année de simples gestes dénonciateurs devant l'ampleur des massacres qui se déroulent à Gaza. L'indignation grandit à mesure que l'horreur de la guerre ravage la population. Le monde du cinéma, réuni à Cannes, a mis Gaza au centre de cette édition du festival, avec une tribune signée par plus de 300 personnalités des différents métiers du 7e art, publiée ce mardi dans le journal Libération. De Pedro Almodovar à David Cronenberg, de Marc Ruffalo à Leila Bakhti, de Xavier Dolan à Julie Delpy, ils sont nombreux à refuser que leur art soit complice du pire. Ce cri du cœur commence par rappeler le sort de la photojournaliste Fatma Hassouni, âgée de 25 ans, qui a trouvé la mort à Gaza ainsi que 10 de ses proches le 16 avril dernier, au lendemain de l'annonce de la sélection du film « Put your soul on your hand and walk » de Sabide Farsi, dont elle est l'héroïne. Fatma Hassouni est l'une des plus de 200 journalistes délibérément tués par l'armée israélienne, nous disent les artistes. Et si la bande de Gaza est interdite aux caméras étrangères, eh bien les signataires de ce manifeste mettent le génocide en cours, selon leurs termes, sur le grand écran de Cannes. Levons-nous, nommons le réel. Osons le regarder collectivement avec la précision du cœur pour qu'il ne puisse plus être silencié et couvert. agissant avant qu'il ne soit trop tard, conclut-il.
Amani Difaoui pour toutes ces précisions.
Et pour terminer ce magazine de l'information, vous le savez forcément, vous l'attendez depuis ce matin, j'imagine, le journal des sports d'Arthur Claude Savoie.
Radio Orient Sport.
Révolution pour le football français, la Fédération française de football veut supprimer la LFP telle qu'on la connaît. Dès 2026, les clubs de Ligue 1, Ligue 2 prendront les commandes d'une nouvelle société qui gérera directement le football professionnel. Ils seront rejoints par la FFF, la Fédération française de football, et par l'investisseur privé CVC, déjà partenaire. L'idée, réduire les coûts, mieux contrôler les finances et s'inspirer du modèle de la première ligue anglaise. Une manière de redonner de la force au championnat français en crise depuis plusieurs saisons, malgré de bons résultats des clubs français dans les grandes compétitions européennes. Toujours en football, c'est enfin officiel, mais après plusieurs négociations, Carlos Ancelotti devient le sélectionneur du Brésil. Le tacticien de 65 ans sera à la tête de la Seleção jusqu'en 2026, à la clé un contrat de 10 millions d'euros par an, ce qui est équivalent à ce qu'il percevait à Madrid. Et une prime de 5 millions d'euros est aussi inclue dans son contrat en cas de victoire au Mondial 2026. Maintenant du tennis, place au 8e de finale du Master 1000 d'Europe. Le français Moutet n'a pas pu réitérer l'exploit de sortir à nouveau une tête de série et s'est incliné face au Britannique Draper 2-7-1. Un autre Français, c'est Arthur Fils qui, il y a quelques minutes, a débuté son 8e face à Alexander Zverev. C'était à 17h. Le Français espère rallier un nouveau quart de finale, lui qui est en forme. C'est déjà la fin d'une relation de 6 mois entre Novak Djokovic et Andy Murray, le numéro 6 mondial. Et l'ancien champion de tennis ont mis fin à leur collaboration 2 semaines avant Roland-Garros. Le Serbe a remercié son ancien coach sur les réseaux sociaux. Passons à la balle orange. Surprise en NBA hier soir lors de la loterie. Chaque année, les équipes les moins performantes de la saison y participent afin de déterminer dans quel ordre elles choisiront les meilleurs jeunes lors de la draft. Mais attention, ce n'est pas automatique. Il y a un tirage au sort qui est effectué avec plus de chances pour les équipes les plus faibles. Mais dans la nuit, c'est Dallas avec 1,8% de chance qui a obtenu le premier choix, grillant la priorité à pas mal d'équipes. Cette année, le first pick a une saveur particulière car la star universitaire Cooper Flag se présente. Quel groupe pour l'équipe de France de basket pour les qualifications de la Coupe du Monde 2027? Réponse dans quelques minutes. Le tirage au sort aura lieu à 17h30. 6 fenêtres de qualification seront étalées de novembre 2025 à février 2027. La France se trouve dans le premier chapeau. Place à l'habituelle anecdote du jour. Une médaille d'or des Jeux Olympiques de Paris 2024 est retrouvée dans une vente aux enchères. Et oui, c'est le coureur néerlandais Eugène Omala, champion sur 4x100 mètres, qui est en train de vendre sa précieuse médaille. D'abord critiqué, le coureur a répondu que la mise aux enchères n'avait absolument rien à voir avec des problèmes financiers, mais dans la motivation d'aider sa famille dans le besoin. En effet, une grande partie du bénéfice ira à l'association caritative de ses parents visant à améliorer la condition de vie en Ouganda. Un geste fort parce que la médaille est la représentation physique de tout ce qu'a accompli l'athlète, mais ici c'est pour une cause encore plus noble. Merci d'avoir écouté votre émission sport, c'était Arthur Claude Savoie. Bonne suite des programmes sur Radio Orient.
C'était Radio Orient Sport.